Coucou, c'est Victor. On est en pleine campagne d'appel aux dons pour le podcast. C'est un moment crucial parce que si cette campagne est un succès, le podcast est garanti de pouvoir exister ces prochaines années. On a presque atteint le premier palier qui est le minimum vital pour produire le podcast dans de bonnes conditions. Il suffit que quelques personnes en plus s'abonnent sur les plateformes de financement pour faire un petit don chaque mois et comme un poisson dans l'eau, sera sûr de pouvoir continuer. Merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent le podcast et lui permettent d'être accessible et gratuit pour tous.
Mais qu'est-ce que vous avez besoin d'aller faire des analogies avec la violence raciste qui continue d'exister en fait? Donc ça continue d'exister. Et peut-être que d'ailleurs ça traduit un manque de confiance chez les antispécistes. Typiquement, moi, très petite, j'ai entendu parler de ma mère et des mères immigrées comme étant des lapines. Et ça renvoyait à l'idée que ces femmes-là, ces mères-là faisaient trop d'enfants en fait. Elles faisaient trop d'enfants et comme les animaux. Si on a été associé à certains animaux, c'est pas par antispécisme, c'est par racisme.
Épisode 23, deuxième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. On continue l'entretien avec Fatima Wasak. Dans la première partie, on a vu notamment comment l'islamophobie peut être un obstacle de taille à ce que les personnes non blanches et ou musulmanes des quartiers populaires se sentent légitimes à lutter contre le spécisme et pour la libération animale. Dans cet épisode, on soulève des questions qui découlent de cela mais qui ne sont pas forcément très confortables. Notamment, l'antispécisme est-il un mouvement de blanc? Quelles sont les erreurs et les maladresses que nous commettons vis-à-vis de la question du racisme, qui peuvent malheureusement alimenter la défiance à l'égard de l'antispécisme? Ces questions, Fatima Wasak les a aussi soulevées vis-à-vis du mouvement écologiste, et elle livre dans l'épisode le récit et les réflexions stratégiques issues d'expériences concrètes, de constructions communes. Par exemple, avec le collectif écologiste Alternatiba, avec qui le Front de Mer a cofondé la première maison de l'écologie populaire en France, Vert Dragon, face à des attaques islamophobes d'une violence inouïe. Je suis convaincu qu'on a beaucoup à apprendre de l'expérience et de la pensée de mon invité sur toutes ces questions.
Je pense que, en tout cas, c'est une des entrées qui peut être intéressante d'aller explorer, d'aller chercher, d'aller mobiliser. Et ça peut vraiment aboutir à, j'espère, à faire que la question de la libération animale se pose, y compris là, y compris dans les quartiers populaires, y compris dans ce qu'on peut appeler la communauté musulmane, y compris chez les personnes non blanches, qui souvent voient cette question d'un très très mauvais œil. Voilà, le terme antispéciste, par exemple, même la notion de cause animale est souvent perçue d'un mauvais œil, mais comme en réalité la question féministe, enfin, ces questions-là qui sont tellement chargées politiquement, historiquement, qui ont souvent été instrumentalisées à des fins racistes en fait et islamophobes. Donc ça c'est la réalité, hein. C'est-à-dire qu'on voit chaque année à l'occasion des fêtes religieuses musulmanes, à l'occasion de l'Aïd, des sacrifices musulmans, religieux, on voit des organisations qui se prétendent antispécistes, qui prétendent défendre les animaux, la cause animale, on les voit tenir des propos racistes, islamophobes, stigmatisants pour les musulmans, les musulmanes. Donc bon, ça n'engage pas forcément à la discussion et à l'intérêt pour cette cause-là. Il y a aussi, je pense, dans les milieux plus radicaux, de gauche radicale, milieux antispécistes, parfois soit des maladresses, soit peut-être aussi des propos racistes parfois, où en fait on va trop vite aller comparer, associer le sort des animaux non humains avec le sort des personnes non blanches. Et ça peut être vécu vraiment, surtout quand ce discours est porté par des personnes blanches qui ne sont pas antiracistes. Je veux dire, qui ont comme ça cette facilité à aller faire cette analogie, mais sans même...
Donc pour être clair quand même, oui. je la mentionne juste que l'analogie, c'est l'analogie avec l'esclavage, par exemple.
Oui, tout à fait. L'esclavage, où on va dire, ou la colonisation, ou le racisme. J'ai déjà entendu, mais voilà. Alors,
ah oui, spécisme, racisme, même combat, c'est
même
ça ?
Même combat en disant, et en faisant d'ailleurs comme si le racisme était réglé. Je veux dire, c'est bon, il n'y a plus de racisme et on va faire comme les antiracistes et on va mener le même combat.
Oui, quand on entend par exemple des discours de même que historiquement on a eu à lutter contre le racisme et ce qui a permis la fin de l'esclavage, il faut faire la même chose aujourd'hui pour les autres animaux. Mais en fait, c'est sous-entendre presque ou laisser entendre que le racisme c'est un problème qui est réglé, qui serait réglé alors qu'il ne l'est pas.
Oui, j'ai entendu même pire que ça, on entend même pire que ça, c'est l'interpellation qui est faite à des personnes qui ne sont pas convaincues par l'antispécisme, où on va dire, est-ce que vous imaginez faire ce que vous faites aux animaux non humains à des personnes noires ou des personnes non blanches. Voilà. Mettez-vous en situation. Alors, imaginez que des personnes non blanches, on les attache, on les tient en laisse, etc. Imaginez, est-ce que vous l'accepteriez ? Non. Et donc, voyez bien que c'est la même chose. Voilà. Et bien, si, en fait, en réalité, on attache des personnes non blanches, on enferme des personnes non blanches, on les.
Oui, c'est pas que des expériences de pensée, en fait. C'est encore des réalités.
Mais c'est des réalités. Il y a des guerres impérialistes qui sont menées aujourd'hui et qui conduisent à des millions de morts. Des guerres impérialistes qui sont motivées par des représentations islamophobes. Je veux dire, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, je veux dire, et donc on bombarde des populations entières, sans faire d'ailleurs le tri entre hommes, femmes, enfants, voilà. Et on détruit donc des populations encore aujourd'hui. Donc faire comme si, en fait, les gens allaient être scandalisés du sort fait aux animaux non humains en comparant avec un sort passé, fait aux personnes non blanches, enfin c'est complètement ridicule. C'est pour le moins inefficace. Voilà, moi c'est ça que je dis. Je dis, mais réfléchissez deux minutes. Je veux dire, vous avez quelque chose à dire sur le sort fait aux animaux non humains. Mais dites-le en fait. Parlez en tant qu'antispéciste. En fait, parlez de notre rapport en tant qu'humain aux non-humains et de la violence qu'on leur inflige et de la souffrance qu'on leur inflige. Je veux dire, en soi, mais c'est complètement légitime. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des expériences, des luttes que vous ne menez pas souvent ? C'est ça aussi le problème. Hein. Ce sont des luttes qui ne sont pas menées par les personnes qui en parlent. Mais qu'est-ce que vous avez besoin d'aller faire des analogies avec la violence patriarcale ou la violence raciste qui continue d'exister, en fait. Donc, ça continue d'exister. Chaque lutte, pour moi... Et peut-être que, d'ailleurs, ça traduit un manque de confiance, peut-être, chez les antispécistes qui ont besoin, pour légitimer la question antispéciste, d'aller chercher de la légitimation dans quelque chose qui est considéré comme étant plus légitime, la cause féministe ou la cause antiraciste.
Ce qu'on vous répondrait, c'est que c'est très difficile en fait de mobiliser sur la question des animaux et que parfois dépasser le spécisme, ça demande presque de s'imaginer ces questions-là par rapport à des humains, parce que justement il y a ce biais spéciste extrêmement ancré qui fait que globalement la grande majorité des gens s'en foutent complètement quand c'est des autres animaux qui sont concernés, mais sont plutôt convaincus qu'il faut lutter contre les oppressions intra-humaines.
Oui, oui. Alors ça, je comprends bien. C'est pour ça que j'ai parlé parfois de maladresse. C'est-à-dire qu'il y a une bonne volonté de départ, mais il y a de la maladresse. Alors là où c'est une maladresse et qu'elle n'est pas, à mon sens, elle ne conduit pas à quelque chose d'efficace, elle ne fait pas avancer la cause, c'est que d'une part, on s'adresse pour partie à des personnes non blanches qui, moi je vous le dis, qui vont être choquées, mais la quasi-totalité des cas, y compris d'ailleurs quand ce sont des personnes qui peuvent être conscientisées déjà, sensibilisées à la cause antispéciste. Pourquoi ?
Ça passe pas en fait, comme discours.
Alors, ça passe pas pourquoi ? Parce que quelqu'un comme moi, voilà, moi je suis une femme arabe musulmane, j'ai grandi dans un quartier populaire, je continue à vivre dans un quartier populaire. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été associée, mes parents ont été associés, mon entourage a été associé, à certains animaux. Et si on a été associé à certains animaux, c'est pas par antispécisme, c'est par racisme. Par exemple, typiquement, moi, très petite, j'ai entendu parler de ma mère et des mères immigrées qui venaient d'Afrique comme étant des lapines. Elles faisaient trop d'enfants. Voilà, moi, j'ai 7 frères et sœurs. Et à l'époque, à l'école, on devait, dès le CP, en fait, on devait renseigner, vous savez, les fiches de renseignement pour dire combien on a de frères et sœurs, etc. Il n'y avait pas assez de place pour mettre les noms, en fait, des frères et sœurs. Et alors, tu te dis, mais d'une année sur l'autre, pourquoi vous n'ajoutez pas de place, quoi ? Enfin, il y a un moment donné, vous vous rendez compte que, voilà, il y a plus d'enfants dans ces familles-là. Et non, c'était fait vraiment, il y avait vraiment cette volonté, je pense, inconsciente, évidemment, globale, mais de stigmatiser. Et ça renvoyait à l'idée que ces femmes-là, ces mères-là, faisaient trop d'enfants, en fait. Elles faisaient trop d'enfants. Et comme, comme les animaux. En fait, il y avait vraiment cette idée
par
que...
Par l'animalisation, voilà, on stigmatisait,
exact,
en fait.
Et donc, d'où la lapine, en fait. Et vraiment ce terme-là. Et ça, vous voyez, ce sont des traumatismes, en fait, qui sont profonds. Je vous dis, c'est depuis le plus jeune âge, depuis la maternelle. Donc, nous, on grandit avec ça, avec le fait que, surtout, on ne doit pas accepter, en fait, d'être associé à ces animaux-là. Et donc, il y a eu, pour grandir, en fait, et pour sauver notre dignité humaine, une mise à distance avec ces animaux. Il y a vraiment eu un travail presque une lutte, en fait, pour dire, attention, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas des animaux, des lapines, nous ne sommes pas des serpents, nous ne sommes pas des loups, nous ne sommes pas tous ces animaux auxquels nous sommes associés. Et donc, quand on voit arriver des personnes qui peuvent, oui, être de bonne volonté, qui peuvent être sincères, qui viennent et qui disent, en fait, vous et les lapines, c'est la même chose. Vous et les serpents, c'est la même chose. Vous et les rats, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas entendable, parce que vous touchez là à des traumatismes, vous touchez là à des choses, en fait, qui ont besoin d'être posées sur la table, discutées. Déjà, dans quelle mesure on accepte, en fait, d'être associés, nous, personnes non blanches, aux animaux non humains ou à tel ou tel animal, déjà. Je veux dire, il faut écouter aussi 2 minutes les personnes non blanches, comment elles se présentent, comment elles se représentent, comment elles se définissent, comment et avec qui, en fait, elles veulent être associées. Donc déjà, il y a déjà ce travail d'écoute qui n'est pas fait. Je veux dire, le champ antispéciste, le milieu antispéciste n'écoute pas ça, n'écoute pas d'une part ces traumatismes et cette manière de se définir et de définir les autres. Ça, c'est une chose. Mais alors, du coup, comme les personnes non blanches ne se reconnaissent pas et même sont choquées, moi, j'ai déjà, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, à l'occasion d'une conférence antispéciste, il y a des personnes dans la salle qui ont dit avoir eu des haut-le-cœurs en entendant, en fait, une analogie faite entre le sort des humains non blancs et des animaux non humains. Voilà, il y a eu une analogie comme ça sur les luttes, et qui partait vraiment de l'idée de qu'il fallait une alliance des luttes, etc. Ça partait, encore une fois, d'une bonne volonté, en fait. Mais voilà, ce sont des personnes non blanches, toutes non blanches, qui nous ont dit, mais c'est pas possible, en fait, moi je peux pas accepter ça, quoi. Alors que ce sont des personnes, alors il y en a une notamment qui m'a dit, mais alors moi je suis une femme arabe, musulmane et végane. Et donc on a affaire là, normalement, en fait, à la bonne cliente, quoi.
Le
bon public, quoi. Et elle a dit, non, je peux pas accepter, en fait, comme ça, venue comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est l'expression qu'elle avait utilisée, ce n'est pas entendable. Mais du coup, on a affaire aux seules personnes qui vont pouvoir recevoir cette analogie, cette comparaison, sans en être choquées. Ben en fait, ce sont les personnes blanches. Et donc, en fait, on va reproduire la blanchité du champ antispéciste. Les seules personnes...
Donc, même les véganes racisés ne reçoivent pas bien ce
Exactement.
Discours-là. Donc, en fait,
oui. D'une part, c'est dommage, en fait, de chasser comme ça du champ antispéciste, du camp antispéciste, cette partie de la population. Je veux dire, c'est quand même... c'est des gens qui pourraient rejoindre notre front commun. Mais ça renforce, du coup, en fait, quelque chose qui est problématique, qui est que le champ antispéciste, il est quand même très, très, très blanc. Alors, comme tous les champs politiques et militants en France, en réalité, je veux dire, il n'y a pas de scoop particulier sur le champ antispéciste. Mais je veux dire, voilà, c'est un espace qui est très blanc. En fait, il est de fait renforcé parce que les personnes blanches qui voient comparer comme ça des personnes non blanches avec des animaux non humains, elles n'ont pas subi ce traumatisme-là. Et ça renvoie aussi à leur capacité, à leur habitude aussi, de se mettre au-dessus de la mêlée. Je veux dire, voilà, on est blanc, on n'a jamais été sous-humanisé. Et donc, voilà, ça permet de penser l'espèce comme on pense la race, en fait.
Comme une abstraction qui ne concerne pas complètement, parce que sur les deux plans, on est dominant, en fait.
Voilà, absolument. Comme une abstraction, mais aussi comme deux catégories qui sont en dessous et vis-à-vis desquelles il s'agit d'être plus empathique, plus conciliant, qu'il s'agit d'aider aussi. Parce que alors, c'est ça aussi, les animaux non humains, il faut les aider, il faut les protéger, de fait. Il faut mener la lutte pour... En fait, ces individus-là. De la même manière, ça renvoie aussi à des habitudes, en fait, qu'on a prises vis-à-vis, en fait, des personnes non blanches. Qu'il s'agit d'aider, qu'il s'agit de protéger. On a, par exemple, en France, cette organisation qui s'appelle SOS Racisme et qui est née de la confiscation des revendications égalitaires, antiracistes, des populations non blanches à l'occasion de la marche pour l'égalité de 83. D'ailleurs, on fête cette année les 40 ans de cette marche. Tout de suite après, donc cette marche glorieuse, c'est des dizaines de milliers de personnes, tout de suite après est née cette organisation qui s'appelle SOS Racisme, où on disait « touche pas mon pote ». Et donc, ce sont des personnes blanches qui disent « voilà, je protège en fait ces personnes, les Noirs, les Arabes, les immigrés, les personnes migrantes qui vivent en France, voilà. Et donc je confisque d'une certaine manière son pouvoir politique, le pouvoir de se battre, de mener la lutte, etc.
Tout en se donnant bonne conscience et de façon un peu paternaliste.
Absolument. Et donc voilà, du coup il y a cette facilité en fait, cette habitude prise quand on parle de cette sous-catégorie. Donc, que sont les personnes non blanches, et quand on parle en fait des animaux en fait qu'on doit protéger, au nom desquels en fait on doit parler. Et donc voilà. Et donc ça donne un truc qui est complètement puant en fait, et donc qui n'est pas audible quoi. Je veux dire, ce n'est pas possible.
J'ai tout de même voulu demander à Fatima Wassak s'il n'y a pas au moins certains contextes où il serait légitime de soulever cette question de la comparaison entre racisme et spécisme. Notamment lorsqu'il y a un lien objectif et identifiable entre ces deux discriminations. Par exemple, quand les personnes racisées sont déshumanisées en étant comparées avec et rapprochées d'autres animaux. Par exemple, dans ce communiqué du syndicat de police Alliance du 30 juin 2023, dans le contexte des révoltes suite au meurtre de Naël, abattu par un policier à bout portant. Ce communiqué donc appelant, je cite, « au combat contre ces nuisibles ». Je pense aussi au fait que Fatima Wassak elle-même a été récemment traitée dans une boucle Telegram d'extrême droite, je cite, et pardon pour la violence de ses propos, de grosse cafarde bougnoulique qui passe son temps à défendre des cafards marrons. Dans quel contexte donc et sous quelle forme est-il possible de parler de ces rapprochements?
Alors moi par exemple, il m'arrive, alors pas d'associer, de dénoncer le sort réservé aux personnes non blanches et aux animaux, quand l'association est faite par les pouvoirs publics. Et donc je dis non, l'association est faite, il faut la dénoncer. Donc voilà, c'est pas nous qui faisons l'association. Pour le reste, je veux dire, des arguments, il y en a en fait. C'est tellement monstrueux. Et puis alors, je sais que vous le faites beaucoup ici, dans ce podcast, mais parler de souffrance animale, de sentience, il y a tellement à faire en fait, il y a tellement à informer, il y a tellement à diffuser en fait ces idées-là qui sont riches, qui sont nouvelles, qui sont très belles, qui peuvent être très poétiques. Il y a tellement de matière en fait, voilà, qu'il n'y a pas besoin. En attendant, encore une fois, laissons le temps en fait aux personnes, notamment aux personnes racisées, d'entrer dans la danse en fait, et de dire ce qu'elles ont à dire, et on tâtonnera en fait. Mais encore une fois, ça ne sera pas perdu. C'est-à-dire qu'on n'aura pas perdu des gens en route, oui, soit par maladresse, soit par par propos qui sont ambigus, voire même parfois racistes ou islamophobes. Voilà. Et ça, j'ai bon espoir. Alors déjà sur les élevages industriels, franchement, j'ai bon espoir parce que vraiment, je rencontre de plus en plus de personnes, y compris dans les quartiers populaires, en fait, qui s'étonnent que ça existe toujours, en fait. Non, mais vraiment,
qu'ils le voient comme quelque chose d'absurde qui ne devrait pas exister.
Et qu'ils l'affrontent. C'est-à-dire que là où, il y a quelques années, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, on avait quand même beaucoup à faire des personnes qui regardaient ailleurs, quoi. C'est vraiment... Voilà, il y a un mal, il y a quelque chose qui ne va pas et tout, mais vraiment, on regarde sur les côtés, quoi. Là, de plus en plus, je vois que, en fait, aussi certainement parce que des organisations politiques, des partis politiques tapent du poing sur la table et ont un propos explicite, en fait, sur ce qui se passe dans les élevages industriels. C'est tout le travail aussi fait par L214, c'est le travail auquel vous contribuez ici. Je pense que de plus en plus, en fait, on n'a pas d'autre choix que de se confronter un petit peu. Et donc, j'ai bon espoir que ce soit vraiment, au moins sur cette question-là, c'est pas la moindre, qu'on puisse avancer et que du coup la cause antispéciste puisse avancer.
Peut-être si vous voulez bien, on peut revenir un petit peu sur les obstacles que vous avez rencontrés dans vos combats, parce que ça mobilise aussi ce rapport un peu de la blanchité finalement, de certains mouvements qui ont pu soit vous opposer des résistances, soit chercher à vous récupérer un petit peu. Et du coup, revenons sur cette fameuse Fédération des conseils de parents d'élèves, SPCE, avec laquelle, au sein de laquelle en fait, vous aviez cherché à faire avancer cette option végétarienne. Et initialement, et vous mentionniez cette conférence tout à l'heure, la viande, un mythe.
La fin d'un mythe.
La fin d'un mythe, voilà, merci. Elle a été refusée, il me semble, par la FCPE initialement, alors qu'elle a été acceptée pour d'autres quelques années après, c'est ça ?
Ah oui, alors ça c'est tous les processus de récupération des luttes menées par les personnes racisées et par les quartiers populaires dès lors qu'on n'a pas réussi à les diaboliser et à les invisibiliser. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a plusieurs processus. Alors d'abord, on essaye d'invisibiliser, ça n'existe pas. Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai parlé d'alternatives végétariennes à la directrice de l'école de ma fille, elle m'a dit « Ah bon, bah vous êtes bien la seule à poser cette question-là, vous êtes bien la seule. » Bon, étant donné la sociologie de l'école, non, je n'étais pas la seule. Donc, mais bon, au début, on essaie vraiment de mettre sous le tapis. Voilà, ça n'existe pas. Bon, parce que ce que vous racontez, bon, c'est votre délire, en fait. Vous êtes parano, vous êtes, voilà, vous exagérez, vous êtes inventé un problème, mais ce problème n'est pas un problème, justement. C'est un caprice. Donc d'abord, on essaie d'invisibiliser, ensuite on essaie de stigmatiser. Donc là, c'est le processus dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est, en fait, cette revendication n'est pas une revendication écologiste, ce n'est évidemment pas une revendication antispéciste, c'est communautariste,
c'est
islamiste,
le halal en sous-main.
C'est le halal, c'est la charia, c'est Daesh, c'est ça qu'on m'a dit. Hein. Moi, à l'époque, en réunion, on me disait, mais en fait, ce qu'elle raconte, c'est Daesh, quoi. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une personne qui avait utilisé cette expression. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et donc, voilà, donc, ensuite, on essaie de diaboliser. Et quand vraiment on n'a pas réussi, parce qu'il se trouve que nous, on a fait le taf, je veux dire, on ne s'est pas laissé écraser, voilà, malgré cette stigmatisation, malgré cette volonté d'invisibiliser, on n'a pas lâché, parce qu'aussi, on a une bonne stratégie. Voilà, comme je l'ai dit, on a appelé des camarades des organisations politiques, antispécistes, L214, je l'ai dit, mais aussi Greenpeace, mais aussi AVF, on a essayé. Enfin, vraiment, il y a eu vraiment une volonté d'élargir les horizons, encore une fois, de ne pas se laisser couler. Et donc, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles qui nous rejoignaient. Nous, je vous disais, L214, par exemple, à leur grand étonnement, il y avait énormément de monde des quartiers. Et c'est quand même rare, sur ces questions-là, de faire venir des gens non militants. D'ailleurs, pas que dans les quartiers populaires, partout en fait. Mmh. Des personnes non militantes qui viennent le soir, pendant 2 heures, alors qu'il faut s'occuper des enfants, parce que nous, on est Front de Mère, c'est une organisation de parents. Donc, on n'a pas que ça à faire quand on est parents. Hein. Et donc, venir comme ça, passer 2 heures, discuter, sans qu'il y ait d'intérêt comme ça immédiat, quoi, je veux dire, c'est pas rien. Ben, nous, on arrivait en fait à mobiliser. Nous, c'était des salles qui étaient... Sur la viande de la fin d'un mythe, il y avait 100 de personnes, par exemple, du quartier en question, etc. Donc voilà, donc il y avait du monde. Donc, ça marche. Voilà, on fait avancer ces questions-là, ça marche. Et là, évidemment, quand ça marche, la question, la lutte, le travail qui a été fait, c'est trop bien pour les personnes racisées. Je veux dire, ce travail-là, cette question-là, qui était comme ça balayée d'un revers de main et qu'on a considéré comme non, c'est un truc de musulmans, d'islamistes, voilà, laïcité oblige, on n'y prête pas attention, parce que c'est ce qu'a dit la FCPE à l'époque, hein, elle l'a dit en réunion. Non, nous, on considère que c'est une question qui est communautariste.
Donc on ne vous a pas laissé en fait organiser des conférences au sein de la FCPE sur ça.
Alors moi, je vais aller plus. Moi, j'ai même été exclue de la FCPE pour ça. J'ai même été exclue pour ça. Alors pas que pour ça. Il y avait également des histoires de et tout ça c'est lié, hein, des histoires d'agressions sexuelles au sein d'une école. Et moi, voilà, j'ai parlé à l'époque de consentement. On était en 2016, hein, c'était avant MeToo. Et de nécessaires réflexions à mener sur ces questions-là, sur les agressions entre enfants, etc. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Et là encore, en fait, non, je veux dire, la réaction, c'est très, très dur. Enfin, le champ réactionnaire, c'est très difficile, en fait, sur toutes les questions, égalitaires, progressistes, en fait. Et il n'y a pas de hasard. Mais il y avait, effectivement, cette question d'alternative végétarienne a beaucoup joué sur cette idée que ce parent-là est trop problématique, on le dégage, quoi. Et parce que c'est vrai que je lâchais pas. Par contre, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je tapais du poing sur la table. D'ailleurs, dans les comptes rendus, il y avait Fatima Wassak veut encore parler du halal. Bon, je parlais pas de halal, mais c'était une manière de dire, mais vraiment, elle focalise là-dessus. D'ailleurs, c'est bizarre, elle ne parle que de ça. Bah oui, je parle que de ça parce qu'en fait, je ne suis pas entendue. Et bon, il se trouve que, comme j'ai dit, hein, j'étais déjà militante, donc évidemment, je sais à quel point voilà, il faut répéter, il faut revenir, il faut pas lâcher, quoi, malgré la violence de ces réunions. Et donc, oui, quand on voit en fait que cette lutte en fait, a porté ses fruits, là, tout à coup, on récupère. Et là, la récupération a été spectaculaire. Je veux dire, d'une année où on a dit non, on ne veut pas de ce temps-là, on ne veut pas y participer, on ne veut pas que diffuser l'information au sein du réseau FCPE, on attaque même les parents qui y participent, on vire, on exclut les parents qui sont à la manœuvre. C'était l'année d'après. Alors, la même FCPE, 93, donc de Seine-Saint-Denis, Bagnolet, Les Lilas en particulier, distribué dans les boîtes aux lettres, mais je vous assure, la même conférence avec le même titre et avec les mêmes intervenants. les mêmes intervenants, c'est-à-dire qu'ils sont repassés derrière nous. Donc moi, je me souviens, on avait invité Laure Ducos de Greenpeace, on avait invité L214, on avait invité un militant antispéciste, je me souviens plus de son nom, qui était médecin et qui était... Voilà, on avait invité 5 personnes, 5 organisations, et en fait, ils avaient invité les 5 mêmes. Simplement, alors c'est ça qui est intéressant pour aller jusqu'au bout de votre question, ce qui est intéressant, c'est que donc, l'intitulé est le même, le format est le même, les enjeux sont les mêmes, les intervenants, intervenantes sont les mêmes, mais alors la FCPE a fait porter ça par une association de parents, mais simplement c'était une association de parents bien sous tout rapport, c'est-à-dire des parents blancs, de classe moyenne, où là tout à coup, oui, la question devenait légitime, c'est-à-dire ils ont blanchi, gentrifié l'organisation en fait et la lutte menée quoi. Et ça c'est quelque chose de tellement classique, même si j'avoue qu'à l'époque ça m'avait quand même... scandalisé, c'est-à-dire j'ai l'habitude de la récupération et de la gentrification du blanchiment des luttes, mais à ce point quand même, et je vous dis de manière aussi spectaculaire, c'est vrai que c'était assez révoltant, mais on ne s'est pas laissé faire, voilà, et on l'a dénoncé publiquement, et ça fait partie de notre stratégie, c'est-à-dire voilà, on a toujours travaillé aussi au niveau national, on était très présente sur les réseaux sociaux, on a fait justement des alliances de lutte avec les organisations, bah, par exemple Greenpeace, qui a été invité, bon, les a interpellés, on leur a expliqué, etc., ce qui s'était passé, AVF aussi. Donc voilà, nous-mêmes, on avait notre mot à dire et on ne s'est pas laissé faire, y compris sur la récupération, quoi.
Il y a eu des résistances aussi du côté politique. Et ce qui peut paraître surprenant quand on ne connaît pas la situation dans les quartiers populaires, c'est aussi venu de partis politiques de gauche.
Oui, parce que alors, ce qui se passe en France, dans le champ politique, c'est que la question raciale et le racisme, l'islamophobie en particulier, c'est au-delà du clivage gauche-droite. Et c'est transpartisan, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un assez large consensus sur l'idée que cette population-là, non blanche, qui vit dans les quartiers populaires et qui appartient à la classe ouvrière, cette population-là doit être dépossédée de son pouvoir politique. Voilà, il y a un petit jeu comme ça auquel s'amusent tous les partis politiques, y compris effectivement les partis de gauche et même de la gauche radicale, pour dire voilà, si on peut faire sans ces gens-là, voilà, on débat entre nous, entre, encore une fois, gens de bonne compagnie. Eh bien, c'est tant mieux. Et alors, cette volonté partagée, cette union sacrée, elle s'opère vraiment dans les détails, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Même la question de l'alternative végétarienne, où on peut se dire, mais c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est le choix, c'est pas... Non, on lâche pas.
C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi les bâtons dans les roues que vous avez eus de la part...
Oui, bah, c'est des mails qui sont envoyés, c'est dès lors que des médias d'extrême droite qualifie notre projet, notre lutte de racialiste, de communautariste, d'islamiste, bah c'est de partager, par exemple. Donc nous, on a une gauche locale qui va partager Valeurs Actuelles, qui va partager même Français de souche, qui va partager CNews. Et ces élus locaux, ils se disent communistes, ils se disent membres de la France insoumise, ils se disent écologistes, bon, parfois même végétariens. Et donc voilà, c'est partagé, mais l'air de rien. Par exemple, on va mettre sur les réseaux sociaux, on va partager un truc de Valeurs Actuelles et puis on va mettre pour information. Voilà, pour information, on partage les médias d'extrême droite pour information quand on est communiste ou écologiste. À Bagnolet, pas tous, hein. Je ne suis pas en train de dire tous, mais beaucoup quand même. Habitude a été prise que la population des quartiers populaires n'a pas son mot à dire, en fait. Et on lui prend son pouvoir, on lui confisque ce pouvoir et on se le partage. Parce que le pouvoir, c'est quoi ? Ce sont des revenus, ce sont des honneurs, c'est plus d'espace pour soi, c'est plus de privilèges, etc. C'est pas rien, hein, de confisquer, en fait, le pouvoir politique des quartiers populaires. Ça représente beaucoup de privilèges. C'est pour ça qu'on peut pas juste se dire, non mais on va aller discuter, on va lutter contre les préjugés, on va lutter contre l'ignorance. Non, il s'agit bien d'une lutte, en fait, à mener, d'un rapport de force politique. Parce que vous allez arracher des privilèges, en fait. Vous allez arracher du pouvoir, vous allez arracher des revenus, vous allez arracher de la respectabilité, des honneurs, etc. Donc c'est pas rien. Donc c'est dire que la lutte est ardue et de longue haleine. Et évidemment, elle va se mener sur du très très long terme. Les quartiers populaires avec des populations non blanches, c'est plusieurs décennies, hein. C'est 70 ans de présence, pour le moins, en Seine-Saint-Denis, par exemple. Les quartiers populaires en France, de manière générale, c'est 40 ans avec les populations non blanches et musulmanes. Voilà, c'est 40 ans qu'il s'agit de détricoter, où en fait, encore une fois, habitude a été prise que un homme, une femme, non blanc, non blanche, qui revendique en fait une mesure d'égalité, l'habitude c'est de dire non mais tu n'as rien à dire parce que tu es islamiste, communautariste, etc. Voilà, il faut s'imposer, il faut convaincre les siens, entre guillemets, déjà, de dire mais il ne faut pas rester isolé dans notre coin, en fait. C'est difficile parce que tout pousse à l'isolement, à l'assignation à résidence. Hein. C'est vraiment quand on dit le sort commun entre les animaux mis en cage et la manière dont on met en cage les personnes non blanches, dans la même politique publique en réalité. Enfin, c'est vraiment comment on assigne en fait et on réduit au strict minimum l'espace de vie, quoi. Et ça, oui, il y a quelque chose là de très commun dans la politique publique, menée par les pouvoirs publics. Et donc, c'est compliqué de discuter, de créer du collectif, de créer du commun. C'est compliqué parce que déjà, par exemple, il n'y a pas d'agora dans les quartiers populaires. Il n'y a pas d'espace où on peut faire de la politique. On va parcelliser les espaces de plus en plus, on va résidentialiser, on va mettre des murs entre les personnes. On va créer de la haine raciste aussi chez des personnes qui sont déjà racisées. Mais par exemple, on va dire, voilà, on va emmurer pour votre sécurité, pour vous protéger des Roms. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui se fait, hein, je veux dire, et c'est porté par les pouvoirs publics. On va vous emmurer pour vous protéger de vos propres enfants, pour vous protéger des dealers, pour vous protéger des trafics de drogue, etc. Enfin, il y a aussi tout ce discours-là, en fait, où on oppose une population à une autre, les parents aux jeunes, les parents aux enfants. Et donc, voilà, tout tend, en fait, en réalité, à nous isoler. Il y a une politique qui est menée pour nous isoler et pour nous pousser à des stratégies individuelles qui sont, évidemment, qui sont mortifères. Donc, il y a tout un travail à faire pour dire, voilà, malgré l'assignation à résidence, il faut au contraire créer des espaces, déjà pour retrouver du lien entre nous, pour discuter, pour faire de la politique. Il faut assumer de dire, nous, on veut faire de la politique. Nous, on ne veut pas être protégés par tel ou tel, par tel parti politique, par telle organisation politique. Nous, on veut s'auto-organiser. On a notre mot à dire, nous, en fait. Nous, on veut réfléchir, on veut produire de la pensée, on veut mener nos propres luttes, quoi. Et on ne veut pas de ce paternalisme puant, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il y a un travail, oui, à faire déjà dans les quartiers pour susciter ça, quoi. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Mais c'est absolument indispensable, quoi. Parce que, voilà, avec la montée de l'extrême droite qu'on connaît aujourd'hui, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Là, pour le coup, il y a une vraie spécificité dans le champ politique. Hein. L'extrême droite, c'est de dire ces personnes non blanches n'ont rien à faire ici. L'Europe est blanche et chrétienne. Ce sont des ennemis de l'intérieur. Il faut non pas seulement les assigner à résidence, il faut même les faire remigrer, donc avec cette belle formulation qui est la remigration. Pour éviter le grand remplacement. Voilà, donc il y a aussi cette urgence-là, en fait, qu'on doit prendre en considération. Et donc voilà, il faut passer la deuxième, quoi. Sur tous les combats qu'on peut mener. Et donc, vous les avez énumérés tout à l'heure. Il y a le combat antiraciste qu'il faut mener. Mais je pense que oui, il faut mener dans le même élan, en fait. Il faut réussir à mener un combat antiraciste, certes, mais féministe également. Tous les combats de libération, en fait. Et pour moi, le combat antispéciste, ça fait partie de ces combats de libération.
Oui, d'ailleurs, un autre de ces combats sur lesquels vous avez été particulièrement active, c'est l'écologie. Et bah, sur ces mêmes combats, vous avez de même reçu beaucoup de bâtons dans les roues et eu à subir beaucoup de résistance, notamment au moment de la création de Vert Dragon. Vert Dragon, c'est la première maison de l'écologie populaire en France. Alors déjà, peut-être que d'abord, vous pouvez nous dire ce que c'est en fait une maison de l'écologie populaire. Et après, ce sera l'occasion de dire que là aussi, au moment de la création, vous avez eu des bâtons dans les roues, et cette fois-ci même de la part de partis dits de gauche à l'échelle nationale.
Oui, parce que alors, une maison de l'écologie populaire, c'est quoi? C'est un petit peu de terre, un peu d'espace pris pour s'auto-organiser. Voilà.
C'est-à-dire que cet espace qui manquait, que vous disiez justement pas avoir d'agora, là, c'est l'occasion d'en créer une.
Alors, d'une part, mais c'est aussi la condition essentielle, indispensable pour s'organiser politiquement. Je veux dire, il faut un lieu pour s'organiser politiquement. Il faut un petit peu de sous, il faut de la détermination, mais il faut un lieu. Alors nous, Front de Mer, pendant des années, par exemple, nos réunions, on les faisait chez nous. Dans des appartements exigus, dans les HLM, et on a des enfants. Voilà, Front de Mer, on a des enfants. Et donc les enfants, on savait pas quoi en faire, et du coup on a remarqué qu'on les mettait beaucoup sur les tablettes, sur les écrans, etc. Donc on n'en pouvait plus d'être chez nous comme ça, à essayer de se dépatouiller comme ça pour organiser des petites choses. Il se trouve aussi que lorsqu'on voulait organiser cette fameuse conférence, par exemple sur la viande, la fin d'un mythe, c'était l'une des premières, mais toutes les autres qui ont suivi, les ateliers, en fait on a cherché à les organiser dans les salles municipales. Nous y avions droit, puisque nous étions l'association Association 1901 de Bagnolet. Et en fait, voilà, on n'y avait pas accès, soit parce que notre demande n'était même pas prise en considération, on envoyait des mails, on n'avait pas de réponse, soit à un moment donné, quand même on a suffisamment tapé du poing sur la table pour être entendu, on avait des réponses, mais alors c'était oui jusqu'à la veille, ou c'était non, finalement, il y a des travaux dans les toilettes. C'est un peu l'argument qu'on nous sortait à chaque fois, c'est voilà, des travaux dans les toilettes. D'où d'ailleurs cette histoire de pique-nique végétarien, c'est venu de là. Hein. C'est parce qu'en fait, on avait invité des organisations qu'on avait fait venir de d'ailleurs, etc. Et en fait, on ne pouvait pas annuler. Et on se disait, c'est pas grave, s'il pleut pas, c'est pas grave, on va faire un pique-nique. Bon, autant faire végétarien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y avait pour le Front de Mer, en fait, en tant qu'organisation politique, la nécessité d'avoir un espace où on pouvait mettre en œuvre notre projet politique, tout simplement. Quoi. Alors, il y avait en plus, ça c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans Pour une écologie pirate, une singularité qui est liée au désancrage, en fait, que l'on subit. C'est-à-dire qu'on nous répète que cette terre n'est pas la nôtre, que nous ne sommes pas ici, chez nous, que nous ne sommes pas sur cette terre légitime. Il y a cette idée que la terre, pour la travailler, oui, et on sait à quel point ce qu'on appelle saisonniers agricoles, à quel point beaucoup sont racisés, sont des personnes non blanches qu'on fait circuler comme ça entre l'Afrique et l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la France, 3-4 mois, bim, tu retournes de l'autre côté de la Méditerranée, tu reviens, donc on les fait circuler comme ça, ces gens-là, donc pour travailler la terre, donc la travailler, oui, la posséder, ou y être légitime, non. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter en tant que militante, mais qu'on expérimente en réalité en tant que simplement personne non blanche. On l'a vu, ce processus de désancrage, je le disais tout à l'heure, à l'occasion des campagnes électorales, où il y a quand même une grande partie du champ politique qui répète à quel point nous ne sommes pas ici chez nous, qu'on n'a rien à faire ici dans cette Europe blanche et chrétienne, qu'il faut qu'on reparte d'où l'on vient. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on est né ici, sur cette terre-là, mais c'est pas grave. Voilà, il y a la musulmanie, il y a tous ces pays comme ça, un peu imaginaires, vers lesquels on est renvoyé. Et donc, il s'agit aussi, au-delà de la nécessité de s'auto-organiser, et le lieu, l'espace, et c'est une condition, il y a aussi cette volonté de s'ancrer dans le territoire et de dire à nos enfants, cette terre, c'est la vôtre, quoi. On est ici, chez nous. Et donc, il y avait, à un moment donné, l'ambition, j'allais dire la prétention, en fait, d'avoir accès à un lieu. Alors au départ, franchement, c'était 20 mètres carrés. On s'était dit, oui, 20 mètres carrés au moins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un bureau, quoi.
Un local, en fait.
Un local où on fait nos petites réunions tranquilles, quoi, avec une machine à café, un petit peu de thé, des petits biscuits. Vraiment, avec l'idée que, voilà, on va faire comme tout le monde, comme toutes les associations, nous aussi, on a le droit. Mmh. Vraiment, ce truc de 20 mètres carrés, on a le droit. Et puis ensuite, on a eu 20 mètres carrés au début. Mais en fait, très vite, on s'est habitué, comme quoi, sur les conditions, en fait, de l'organisation politique, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu te dis, mais en fait, mes 20 mètres carrés, mais c'est petit, en fait. Il faut plus, parce qu'on est une vraie organisation, on a mené des luttes, et c'est là qu'on a fait la liste de toutes les luttes qu'on avait menées depuis plusieurs années. L'alternative végétarienne, bim, on a gagné. Les ascenseurs en panne, on a gagné. On s'est dit, mais en fait, il y avait une histoire de numérique d'écran, justement, parce que justement, nos enfants surconsomment des écrans, on va lutter contre la surconsommation des écrans, etc. On a mené toute une campagne. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a réussi à faire. Et donc, nous avons le droit, nous avons la légitimité d'avoir accès à plus grand. Et donc, on a cherché. Il se trouve que, parallèlement, on a mené avec Alternatiba tout un projet, alors qu'on pourrait qualifier d'alliance des luttes, c'est-à-dire l'idée qu'on veut respirer. On ne veut pas que nos enfants meurent sous le poids de 3 gendarmes, et c'est l'affaire Adama Traoré, qui est mort asphyxié dans le cadre d'une intervention policière, mais c'est aussi le cas à l'époque de l'affaire George Floyd. Et donc il y a ce « on veut respirer » assez classique dans la lutte contre les violences policières. Mais en tant que parents, nous ne voulons pas non plus que nos enfants meurent de l'air qu'ils et elles respirent en face de l'échangeur autoroutier.
Donc la pollution.
Polluer. C'est la question de la pollution atmosphérique, qui est une question plus traditionnelle dans le mouvement écologiste et le mouvement climat. Et donc, il s'agissait de relier ces deux questions-là, en fait. C'est de l'alliance des luttes, mais en même temps, c'est pas artificiel, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est une réalité. La mère que je suis, voilà, a ses angoisses concernant ses enfants. La violence policière comme la pollution, les pollutions de manière générale. Et donc, on avait fait un travail là-dessus avec le comité Adama et Alternatiba, et ça a donné des textes, des pétitions, une campagne et une marche, donc à Beaumont-sur-Oise. Et alors, c'est intéressant parce que là, tout à coup, on a eu affaire au mouvement climat des écologistes. Alors, le mouvement climat, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un peu comme le mouvement antispéciste où c'est quand même beaucoup de personnes blanches, CSP+, c'est un mouvement qui est très situé sociologiquement, très homogène, on va dire, sociologiquement, et qui est assez centré sur lui-même, quoi, sur ses aspects aspirations, ses enjeux, etc. Et là, en 2020, on a quand même eu ce mouvement donc du centre Paris qui s'est déplacé vers la périphérie, les quartiers populaires de Beaumont-sur-Oise, parce qu'il faut y aller. Là, c'est vraiment la périphérie au sens... Cette marche, elle a lieu à l'occasion de l'anniversaire, entre guillemets, de la mort d'Adama Traoré. Donc souvent le 18-19 juillet. Et comme par hasard, ce jour-là, il y a des travaux, quoi. Il y a des histoires de travaux, c'est toujours ce qu'on met dans la tête des personnes racisées pour les empêcher de s'organiser politiquement. Mais là, comme par hasard, il y a des travaux. Donc c'est vraiment la croix et la bannière pour pouvoir accéder à Beaumont-sur-Oise. Il faut vraiment le vouloir pour venir, quoi. Et donc, c'est une vraie alliance des luttes au sens où, oui, le centre va vers la périphérie. C'est pas la périphérie qui est invitée à venir rejoindre le front du centre. Ça, c'est quelque chose que je dénonce. Je dis, on n'a pas que ça à faire, en fait, que de venir défendre les intérêts du centre. Non, non, là, on a réussi quand même à faire que, voilà, le centre se décentre. Et donc, viens écouter un peu ce qu'on a à dire du côté de la périphérie. Viens écouter un peu ce qu'on a à dire quand nos enfants meurent sous le poids de 3 gendarmes et qu'il y a impunité policière et judiciaire, etc. Donc, c'était vraiment une marche, vraiment, je le dis tranquillement. C'est pas parce que je suis un peu à la manœuvre avec les camarades d'Alternatiba et du comité Adama, mais c'était assez incroyable, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un tournant. Pour moi, c'est le tournant de l'écologie pirate. Par exemple, si je devais définir à un moment où vraiment ça s'est donné à voir, en fait, ça s'est concrétisé, c'est vraiment la marche à Beaumont-sur-Oise 2020. Donc, génération Adama, génération climat, on veut respirer. Et on a pris nos habitudes, du coup, parce que c'est ça aussi, les relations, l'alliance des luttes, c'est aussi des histoires d'amitié, en fait, militante, en fait, et de confiance, et de comment on travaille ensemble, et comment, quand on mène des luttes communes, on s'est embrouillé, parce qu'il y a des tensions, il y a des conflits, hein, je veux dire, les rapports sociaux de domination, c'est pas rien, et donc ils se rejouent, en fait, dans l'inter-orga, ils se rejouent même entre les personnes, mais qu'on a réussi à passer outre, on a réussi à régler, on a réussi... Et donc c'est des tensions, mais en même temps, c'est des solutions, c'est des compromis, en fait, et donc ça donne, à un moment donné, l'idée de se dire, mais ce serait super qu'on puisse avoir un lieu pour pouvoir montrer à quel point c'est compliqué de faire de l'écologie populaire, parce que c'était ça l'idée. C'était pas tant de dire on va donner à voir l'écologie populaire dans sa réussite, sa gloire. On savait bien que s'il n'y a pas d'écologie populaire aujourd'hui, c'est parce que l'écologie, elle n'est pas populaire, tout simplement, et que s'il y a nécessité d'avoir une maison de l'écologie populaire, c'est parce que tous les autres lieux ne le sont pas populaires, qu'ils sont tous, ça je le dis clairement, tenus, occupés, fréquentés par une classe moyenne supérieure blanche des centres-villes. Je veux dire, il n'y a pas... Alors, pas forcément des centres-villes. Bon, ça, peut-être que sur le côté territoire, c'est pas si généralisant. Mais en tout cas, classe moyenne et classe moyenne supérieure blanche, ça, c'est évident. Et donc, si on en arrive là, si c'est aussi général, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est pas parce qu'on s'est trompé à un moment donné en 2021 ou en 2022. C'est bien que c'est très, très, très structurel. Et donc, c'est pas juste la petite organisation Front de Mer et la petite organisation Alternatiba qui, du jour au lendemain, va réussir à faire que ça y est, on a réglé le problème, on a un super projet d'écologie populaire à donner à voir au monde. Non, non, nous, on savait bien que ce qu'on allait donner à voir au monde sont des échecs, en fait, des attaques, des problèmes, des tensions, des conflits, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait le lieu, au moins pour dire, voilà pourquoi ça bloque. Voilà ce qui marche pas, quoi. Et alors aussi, tactiquement, là, je le dis tranquillement, le Front de Mer seul, donc le Front de Mer, ce sont des personnes non blanches, musulmanes, femmes. Mais ça avait été des hommes, je pense que ça aurait été même pire en réalité, hein, c'est toute la question de l'intersectionnalité. Des femmes musulmanes non blanches qui veulent s'auto-organiser, qui veulent un lieu pour le faire, autant dire que impossible d'avoir gain de cause, quoi, de réussir. Et donc oui, tactiquement, il y avait besoin pour le Front de Mer, mais ça, on en a discuté avec Alternatiba, c'est ça qui est génial, quoi. Ça fait partie de notre stratégie commune. On avait besoin qu'Alternatiba soit là, dans les parages, soit dans la co-organisation, dans la co-gestion du lieu, pour pouvoir prétendre au lieu. Ça, c'est évident. Et donc, on a obtenu le lieu. Je le dis aussi en passant, mais on l'a obtenu, évidemment, grâce à un rapport de force politique. On l'a obtenu parce que Bagnolet, c'est une ville où on lutte depuis longtemps, et c'est des luttes, moi, je l'ai fait mienne, hein, je suis héritière de ces luttes communistes, menées par la CGT, menées par le mouvement des travailleurs arabes, parce qu'il y a le mouvement des travailleurs arabes qui était là il y a longtemps à Bagnolet. Voilà, c'est des luttes qui sont là et qui sont, on va dire, un terreau favorable dans lequel nous, on profite en fait du travail mené par les anciens, par les anciennes, par les gens qui étaient là dès les années 70. Par exemple, le MTA, c'est les années 70-80 à Bagnolet. Et donc, on profite de ce terreau favorable. On profite aussi, en réalité, ça je le dis rapidement, mais je le dis quand même parce qu'il ne faut pas rêver, d'une stratégie électorale. C'est qu'à un moment donné, Mais je pense que ça peut être intéressant pour le champ antispéciste. À un moment donné, on s'est dit, l'auto-organisation, c'est très bien. Nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des militantes révolutionnaires. Voilà, nous avons un projet qui est radical de renversement de la société, de rupture en tout cas avec la manière dont fonctionne la société, c'est-à-dire avec des rapports de domination, d'oppression, de classe, de genre et de race. Donc, c'est pas rien comme projet politique, mais... à l'époque, il y avait quand même une réflexion autour de l'idée que, et d'ailleurs depuis le début en fait, qu'il ne fallait surtout pas se laisser enfermer dans les caves. Et qu'au contraire, il fallait chercher absolument à avoir un pied dans l'institution. Et donc il y avait cette idée que je répète dans mes livres, un pied dans le quartier, un pied dans l'institution. Le pied dans le quartier, c'est l'autonomie politique, l'auto-organisation. Le pied dans l'institution, c'est une stratégie électorale qui consiste à envoyer des élus, enfin en tout cas des militants. Parmi nous, il y a des militants, des militantes, et voilà, il faut faire une liste citoyenne. Et on, alors soit voilà, la liste gagne l'élection, ça ne s'est pas passé, mais ça serait super, et bah, j'espère que ça va arriver ailleurs. Et c'est très bien, parce que alors là, tout à coup, mais tout se libère, quoi. Mmh. Soit, même si elle ne gagne pas, il y a une histoire d'alliance avec bah, les autorités en place, le pouvoir en place, etc. Et bah oui, ça permet d'avoir des élus qui sont adjoints à l'écologie, adjoints jeunesse et sport, adjoints sur les centres de quartier, adjoints sur la restauration scolaire. Bon, bah, tout à coup, l'alternative végétarienne, bim, ça s'est débloqué. Tout à coup, Vert Dragon, on l'a obtenu. Mais on l'a gardé aussi, parce que alors, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les attaques subies sur l'alternative végétarienne, mais on a eu fois 1000 sur Vert Dragon. Là, tout à coup, c'était... Mais... Et c'est pour ça que je disais, la terre ici, c'est trop important de dire cet espace-là, cette terre-là, c'est la nôtre, quoi. Et on n'est pas chez nous.
Même à l'échelon national, en fait, il y a une sorte de backlash.
Été, mais on se dit, mais c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, tout est dans le détail.
C'était quoi? C'était un secrétaire général de parti?
Ouais,
c'est ça?
C'était... Alors, celui qui a lancé les hostilités, c'est le député du coin, voilà, qui est député France Insoumise. Ça peut paraître étonnant, hein, mais vraiment, alors lui, il a été interpellé, le maire de la ville, les adjoints, pour dire, mais il faut surtout pas laisser ce lieu à cette organisation Front de Mer. Alors c'était moi qui étais visée en particulier parce que alors, j'étais la plus militante, la plus connue en fait dans l'organisation. En mobilisant des arguments clairement d'extrême droite, des arguments racistes qui consistaient à dire que mon vrai projet...
Une fois de plus. L'islamisation.
C'était précis. Alors ce qu'il a dit précisément, c'est en fait tout le monde sait bien que son vrai projet, c'est de séparer les enfants musulmans des enfants non musulmans dans les réfectoires. C'est ça son vrai projet derrière l'alternative végétarienne. Enfin, voilà. Et il a dit ça, il a interpellé en fait les élus là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis, il a lancé les hostilités. Alors, dès qu'on a annoncé le lieu, en fait l'inauguration du lieu, parce que alors, le lieu on l'a eu en janvier 2021, on a attendu un petit peu de bien tout préparer, et puis on a inauguré en juin. Alors il y a eu un front de mai en mai, voilà, pour situer un petit peu. Mais alors dès qu'on a annoncé publiquement, ça y est, on a ce lieu-là, il s'appelle Vert Dragon, et voilà le texte, etc. Alors là, ça s'est agité de toutes parts. C'est pour ça que je dis tout est dans le détail. On avait l'impression qu'on avait occupé la moitié de la France, quoi. Parce que, alors pour nous, 1000 mètres carrés, c'est énorme. C'est vrai que 1000 mètres carrés, c'est, à mon sens, hein, c'est aujourd'hui les seuls mètres carrés. Alors je mets l'après-m dans le coup. Alors Vert Dragon et l'après-m, ce sont les seuls mètres carrés qu'on a réussi à récupérer, nous, militants des quartiers populaires, militants antiracistes, militantes féministes, etc. C'est les seuls en fait mètres carrés. Donc bon, on peut se dire, mais c'est pas grand-chose du coup, si c'est qu'à Bagnolet, dans ce quartier-là. Je veux dire, la France est large et grande. Et ben non, même ces mètres carrés-là, c'est 963 mètres carrés, parce qu'il répétait ça, 900, parce que moi je pensais 1000, j'arrondissais comme ça haut, toute méditerranéenne que je suis, j'arrondissais au-dessus. Donc c'est 1000 mètres carrés. Non, ils étaient précis, et c'est là que, voilà, on sent que chaque mètre carré compte, quoi. Chaque mètre carré est un mètre carré de trop. C'est 963 mètres carrés à ces dames, à ces femmes qui sont, islamistes, etc. Alors vous me disiez concrètement comment ça s'est traduit. Ça s'est traduit par des équipes de CNews qui était là devant Vert Dragon, alerté par la gauche locale, parce que alors CNews, parce qu'il n'y a pas d'extrême droite à Bagnolet. Il y a de l'extrême droite, évidemment, j'en parle là, mais elle n'est pas officielle. Elle se fait appeler membre du PCF, membre de la LDH locale, la Ligue des droits de l'homme. Il y a des personnes qui ont un comportement, des pratiques, un discours d'extrême droite là-dedans. Mais il n'y a pas une extrême droite organisée, officielle, on va dire. Mmh. Et bien, ces gens-là, en fait, ont alerté. C'est ça, ce sont des lanceurs d'alerte. Bon, ça existe dans ce sens-là aussi. Ils ont alerté donc les médias d'extrême droite, donc typiquement CNews. Donc on a vu débarquer devant Vert Dragon. Et alors c'est marrant parce que CNews, parce que je pense qu'ils sont sincères quand même, CNews, dans leur truc en fait. Parce que eux, pour eux, quand vous leur dites qu'il y a des islamistes là qui occupent un lieu, etc., ils vont islamiser la France, un danger, c'est des terroristes. Ben, en fait, ils s'attendent vraiment à voir vraiment Daesh en image, en fait. Sauf que c'est marrant. On rigolait parce qu'en fait, bah, du coup, c'était nous, en fait, à Verdragon. Et du coup, c'est... Bon, alors, il y a nous, déjà, il y a le front de mer. Et nous sommes bah, des êtres humains, en fait, du coup. Voilà, c'est... on n'est pas ces monstres, en fait, décrits dans les médias d'extrême droite. Et puis, Alternatiba, surtout. Parce qu'Alternatiba, c'est ça qui est rigolo, en fait. Bah, c'est des... Bah, bon, je ne pense pas rabaisser, stigmatiser les camarades d'Alternatiba, mais bon, c'est des blondes aux yeux bleus, avec des petites lunettes. Bon, voilà. Bon, ouais, une sorte de frange, des petites baskets Véja. Enfin, c'est... Enfin, bon, ça aurait pu être les enfants, en fait, des journalistes là, qui sont à CNews, quoi. Enfin, et du coup, ah, ça n'allait pas. Et alors, du coup, c'est marrant parce que les images qui étaient diffusées sur ces médias, donc CNews, LCI aussi, c'est LCI qui était sur nos côtes et qui organisait des débats sur nous, plusieurs, etc., des interviews. Mais en fait, les images qu'il y avait, mais en fait, c'est marrant parce que c'était un lieu sans personne. On filmait le lieu, et donc, on voit, voilà, et puis avec une musique comme ça qui fait peur, mais... il y avait personne, on avait le choix avait été fait de ne pas filmer les individus parce qu'en fait si on avait filmé les individus ça aurait humanisé le lieu et la cause et on se serait bon on aurait ça aurait pu donner une apparence un peu de normalité en fait et justement pas il fallait justement diaboliser dire que c'était des gens horribles et laisser libre cours comme ça à l'imaginaire des spectateurs ou des auditeurs quoi et du coup voilà donc voilà il y a eu ces images là qui ont été diffusées et alors ça a duré quand même plusieurs jours en fait en tout ça a duré 3 semaines mais alors il y a eu plusieurs jours où c'était vraiment je sais pas si vous connaissez Pascal Praud parce que moi j'ai découvert du coup à cette occasion, mais j'ai même pas la télé.
Animateur d'une des émissions de CNews.
Voilà, et qui a fait 3 jours sur nous, en fait, c'était le débat qui était organisé. Alors, je me souviens d'un bandeau comme ça qu'ils mettent sur ce type de médias, c'était le drapeau vert de l'islam flotte sur Bagnolet. Non, alors, pardon, le drapeau vert, entre parenthèses, de l'islam. Le drapeau vert, hein, vous pensez écologie, mais non, c'est l'islam. Le drapeau vert de l'islam, enfin, c'est parce que c'était très marrant. Parce que ça peut être marrant aussi, hein, le fascisme. Mais le drapeau vert de l'islam flotte sur Bagnolet. Et donc, du coup, pendant des émissions qui pouvaient durer 2 heures, il y avait des gens, beaucoup de gens qui nous attaquaient. Il y avait parfois une personne qui disait « Ah bon, pas tant que ça, etc. » Bon, c'est un peu le jeu de ces débats complètement piégés, quoi. Où il y a quand même une personne souvent qui joue un peu le rôle de la personne un peu plus gentille, un peu plus empathique. Et mais quand même, il y a eu nos noms. Alors moi, c'était mon nom en particulier quand même, qui était comme ça balancé. Ça c'était novembre-décembre 2021, donc c'est monté et vraiment novembre-décembre 2021 là ça a été horrible quoi, c'était on était définis comme étant des terroristes. Moi je me souviens qu'à l'époque c'était vraiment le danger terroriste en France, il se situait en Seine-Saint-Denis, dans le 93 à Bagnolet, et ces médias et cette gauche locale ont essayé de faire monter la sauce. Ça s'est traduit aussi par des gens bien sous tout rapport, hein. C'est pas du tout les personnes qu'on qualifie de nazis ou d'éco-fascistes ou dans les médias. Non, ce sont des personnes parfois qui sont profs, qui sont designers, architectes, qui travaillent dans le numérique, voilà, et qui allaient mettre des affiches. Alors, parce que avant, dans les années 70-80, les affiches, elles étaient beaucoup plus directes, quoi. C'était, enfin, je ne veux pas sortir des termes répugnants sur les personnes non blanches, mais c'était dehors les voilà. Et c'était cash, et c'était... Bon, là, on est de gauche, en plus, la plupart du temps. Donc là, non, il ne faut pas être ni vulgaire, ni utiliser comme ça ces mots xénophobes. Non, là, on dit, il faut chasser ces personnes-là de Verdragon, parce que ce sont des dangers pour la République, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour... Voilà. Donc, autant de termes comme ça, de gauche, un peu comme ça. Et donc, et c'est des gens qui allaient placarder ça tout autour de Verdragon. Donc, vraiment, c'est dire, hein, le rapport colonial, en fait, et l'enjeu colonial qui se jouait, l'enjeu de la terre. C'est, voilà. Nous, on occupe un peu, donc on a un peu de place, et on dit, ah, ça va mieux, on est ici chez nous, et puis ça nous permet aussi de dire concrètement à nos enfants, ben là, voilà, là, on est en train d'avancer, en fait. Cette terre, c'est la nôtre, vous êtes nés ici, cette terre, vous l'habitez, et ben c'est la vôtre, et vous la protégez, et elle vous protège, etc. Et en face, tout de suite, on récupère de l'espace. D'ailleurs, on va mettre des affiches comme ça tout autour de Verdragon pour dire non, il faut les dégager, il faut les chasser. Et alors, l'objectif vraiment précis, parce que ce sont des gens qui se levaient le matin à 6h du matin pour aller mettre aussi des tracts dans les boîtes aux lettres, à 3 reprises quand même. Donc, bah, c'est un coût tout ça, c'est du temps, faut avoir l'énergie de faire ça, quoi. Mais c'est des gens qui voulaient absolument je pense, non seulement nous chasser, mais qui voulait aussi, moi je parle de hogra dans, pour une écologie pirate. Alors hogra, c'est un terme arabe pour dire l'humiliation, la volonté souvent institutionnelle de sous-humaniser. Il y a une autre expression en rifin, skt adoth moth, qui veut dire faire passer sous terre en fait. Alors, et ça fait penser aussi aux damnés de la terre de Frantz Fanon. Bon, il y a tout un travail là-dessus. Mais c'est vraiment, voilà, c'est comment on humilie de manière totale, quoi. Tout le temps, dans tous les espaces sociaux, et comment on rappelle à l'ordre. C'est, tu ne partages pas avec nous une égale dignité humaine, tu es en dessous, tu es inférieur, etc. Et en fait, ce qui se jouait, c'est clairement ça. C'est-à-dire, on a eu affaire à des personnes qui étaient là pour nous chasser et pour nous faire la hogra, comme on dit. C'est-à-dire, vraiment pour nous obliger, nous qui étions à l'intérieur, donc. Enfin, c'est visuel, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment pour qu'on se rende compte, en fait, de la guerre de territoire qui se jouait, même à cette échelle-là, même dans ce détail-là, à Bagnolet. Mais l'idée, en fait, ce qui était recherché, je pense, hein, assez clairement, c'est qu'on sorte avec nos valises, avec nos gosses, et qu'on soit chassé, quoi. Chassé de Verdragon, mais c'est comme si on nous chassait de France, en fait, de cette France légitime, respectable, quoi. Et vraiment, je pense que c'était ça qui était voulu. C'est quelque chose de très spectaculaire avec la police, avec les autorités, etc. Et nous, en larmes, bah évidemment, tu vois, t'es humilié comme ça, t'es chassé d'un lieu. Donc, en larmes, etc., avec toutes nos affaires, et on déménage, et on prend nos gosses sur le dos, et tant pis, et on rentre chez nous, dans nos petits appartements. Et du coup, c'est un échec sur lequel, voilà, il faut continuer à vivre, quoi. C'est, bah, en fait, mais non, en fait, on est que de la merde, en fait. Et c'est aussi, je pense, quelque chose, un message aussi qu'on cherche à signifier à nos enfants. Vos parents, en fait, c'est rien du tout, en fait. Ils pèsent rien, ils valent rien. Regardez comment on les a chassés. Et ces femmes, ces mères, voilà, c'est aussi comment on cherchait à chasser les folles de la place de Mai, les folles de la place Vendôme. Elles n'ont pas à être là dans la place publique. Donc, vous, leurs enfants, en fait, vous n'êtes rien du tout, non plus. Enfin, je pense que c'est vraiment cette opération-là qui a été recherchée, quoi. Alors moi, je le dis comme ça, rapidement, hein. J'ai passé les pires semaines de ma vie, mais vraiment. Mon entourage peut témoigner que je dormais plus, en fait, parce que justement, j'avais peur de ça. Je me disais, mais comment on va se remettre de ça, en fait? C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu des victoires et on n'a jamais lâché. Mais comment notre cœur va supporter cette humiliation totale, en fait? Parce que on peut esquiver l'humiliation. Je veux dire, il y a des fois où, stratégiquement, quand on sait qu'on va être humilié, qu'on va être abaissé, qu'on va être pointé du doigt et qu'on ne pourra pas faire grand-chose d'autre, en fait, bah on esquive et on fait autrement. Mais là, pour le coup, on était déjà à Verdragon. Et alors oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que pourquoi novembre-décembre? C'est parce qu'on a signé un bail précaire qui arrivait à terme en décembre. Et ça, nos ennemis le savaient. Et donc, en fait, il suffisait...
Il y avait la volonté de ne pas faire renouveler le bail.
Voilà, par le maire. Et le maire, bah, on ne maîtrise pas, en fait. Et alors, je tiens à dire aussi, d'où l'intérêt d'avoir un pied dans l'institution, bah, que le maire de la ville de Bagnolet a tenu la route. Il a subi, lui, un peu comme le maire de Saint-Brévin, là, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui a subi des pressions pour le dissuader d'ouvrir comme ça un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. De la même manière, le maire de Bagnolet, on lui a mis une pression mais incroyable, y compris de la gauche. L'extrême droite, je l'ai dit, CNews, etc., mais même de la gauche locale, quoi. Et des écologistes qui lui ont envoyé des mails. Il y a par exemple la Ligue des droits de l'homme, la section locale de la LDH, on a un courrier, nous, voilà, on a une preuve, où la Ligue des droits de l'homme locale, section Bagnolet-les-Lilas, envoie un courrier, donc encore une fois signé de la LDH, de ce cadre de la France insoumise, en fait, qui est aussi à la LDH, qui envoie un courrier au maire de Bagnolet pour dire il faut les chasser de ce lieu, il ne faut pas renouveler le bail. Et donc on prenait un risque... Mais bon, voilà, moi je me disais, on ne s'en remettra pas, en fait. Je veux dire, de cette humiliation-là, on ne s'en remettra pas. Alors après, on était suffisamment déterminés pour se dire, voilà, de toute façon, on ne bougera pas d'ici. Moi, j'avais déjà... Mais bon, ça, on ne peut pas maîtriser totalement parce que ça coûte beaucoup, en fait. Voilà, on ne peut pas... Bon, quand on est une personne non blanche, installer une ZAD quelque part, non, c'est pas si simple, en fait. Les représailles sont bien plus importantes que quand on est une personne blanche. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on ne maîtrisait pas, donc... Mais on s'est battu, voilà. Et par exemple, alors je le dis aussi, mais ok, certes, la section locale de la LDH a été lamentable et a participé vraiment à cette chasse, en fait. Mais alors la LDH nationale, elle, au contraire, je pense aussi pour se désolidariser de sa section locale, a mené une campagne a produit un texte, une tribune, etc. pour nous soutenir. Et nombre de personnalités écologistes, antiracistes, féministes nous ont soutenus, ont signé donc ce texte pour, voilà, pour qu'on puisse se maintenir dans le lieu à Verdragon. Et notre détermination, etc. Et le rapport de force local, etc. ont fait que...
Verdragon a tenu.
On a tenu et le bail, donc, très concrètement, a été renouvelé. Ouais.
J'espère que vous trouvez, autant que moi, ce que dit Fatima Wasak passionnant. Dans la prochaine et dernière partie de cet entretien, elle invite à refuser de penser l'antispécisme comme un mouvement et une pensée déjà toute faite auquel on viendrait intégrer ou faire participer les personnes des quartiers. Et elle esquisse, à l'inverse, les points forts de ce que peut être un antispécisme pensé depuis ces quartiers populaires. À dans 2 semaines pour ce programme. Bisous.